Bonjour à tous et à toutes, bonjour. Alors, ce matin, bon, Paul et moi, on ne s'est pas concerté, mais le Seigneur s'est occupé de tout cela et il a fait en sorte qu'à un moment donné, on puisse converger. Ah, ça fait longtemps que c'est pas vu, bien sûr. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et nous aussi, on a passé de bonnes vacances. Et puis, nos enfants ont repris le chemin des études. On a dû faire quelques petits aménagements, des petits déménagements. Voilà, donc Eliane n'est plus à Aix, maintenant elle est à Marseille. Voilà, Farah est toujours à Nice, mais elle n'est pas en médecine, mais elle est dans une matière aussi qu'elle apprécie beaucoup et elle est prête à se dépenser à fond. Voilà, hein, donc j'ai appris un nom, ça s'appelle maïeutique. Je ne connaissais pas. Voilà, alors maïeutique, c'est le métier de sage-femme. Voilà. Donc, te souhaitons beaucoup d'encouragement, de courage. Voilà. On prie pour nos enfants, afin qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur, des choix qu'ils ont faits, ou alors qu'ils puissent aller au bout de leur diplôme. Alors ce matin, je vais vous lire un passage qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 6. Au reste, frères et sœurs, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous voilà bien armés. Comme dans n'importe quelle bataille, nous avons besoin évidemment de moyens pour nous défendre. Nous avons besoin d'armes, de protection. Bien sûr, ce qui nous concerne, nous en tant que chrétiens, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas fait pour. Nous n'avons pas à combattre nos voisins, nos amis. Même des fois aujourd'hui, je vois les réseaux sociaux, c'est un champ de bataille. Il y a des victimes collatéraux. Il y a vraiment des luttes, des combats, et beaucoup de chrétiens sont dans ces batailles. Et je pense personnellement que ce n'est pas leur place. Mais bien sûr, donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais comme le précise bien l'apôtre Paul, contre les ruses du diable. Contre les dominations. Contre les autorités. Alors, peut-être qu'il y en a aussi qui confondent les autorités ici-bas et les autorités spirituelles dans les lieux célestes. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc, il est clair pour l'apôtre Paul que notre combat ne se situe pas sur un plan terrestre, mais spirituel, non pas humain, mais spirituel. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pourtant clair, et même jusqu'à éteindre les traits enflammés du malin, les traits brûlants, je dirais, du malin. Il nous faut donc pouvoir résister, tenir ferme, comme dit si bien l'Église persécutée, tenir ferme. L'apôtre Paul nous révèle qu'il y a toute une panoplie, et bien sûr il a dû s'inspirer des Romains qu'il croisait ou qui le gardaient, et ça lui a inspiré cette image. Et cette panoplie que Paul nous dépeint nous demande, l'apôtre Paul, quelque part, de marcher avec. Il a donc identifié tout cela, cette armure de soldat romain, depuis le casque jusqu'aux chaussures. Je ne vais pas détailler tous les aspects, je ne vais pas vous parler du casque. Je vais juste m'arrêter sur une des parties de cette armure qui, pour moi, dans ma vie personnelle, a été d'une très grande importance lorsque j'ai commencé à prendre conscience et à réaliser que je possédais pleinement cette arme. Au verset 14, il est question de la cuirasse de la justice. Merveilleuse cuirasse de la justice. Qui accusera les élus de Dieu? Nous sommes habitués à ce que, en général, la justice soit représentée par un homme, une balance avec des poids et des mesures. Cependant, l'apôtre Paul, lui, il utilise une image complètement différente pour parler de la justice. Il la compare à une cuirasse. C'est une arme de protection, cette cuirasse a son importance dans la vie du chrétien. Elle est vitale. Les armes du chrétien sont essentiellement, je le dis, je le redis, essentiellement défensives et servent à nous défendre contre l'injustice et pour bien d'autres choses. La cuirasse elle-même est une pièce d'armure, alors je suppose que tout le monde a dû en voir un peu dans sa vie, cuirasse, surtout on en voit encore dans les châteaux, hein, les armures. La cuirasse a elle-même donc, je pense, plusieurs pièces, elle est faite certainement de plusieurs pièces, je n'ai pas vu de très très près, mais... et de pièces métalliques en général, destinées à protéger la poitrine, siège des organes vitaux, et en particulier du cœur. Elle permet d'empêcher à l'arme de l'adversaire de toucher notre cœur. C'est ce qui produit en nous, c'est cette justice. Ce qui est produit en nous, c'est cette justice de Dieu. Et c'est ce que produit la justice de Dieu dans nos vies. Elle protège notre cœur. Et on a parlé tout à l'heure que le cœur était à la fois le siège de nos sentiments, de notre ressenti, un point très fragile, très sensible, qu'il faut garder plus que toute autre chose. Elle nous permet, cette cuirasse, de tenir debout et de tenir ferme devant l'adversité. Nous nous revêtons par la foi en Jésus-Christ de cette cuirasse de la justice, avec laquelle nous trouvons grâce aux yeux de Dieu qui nous a rendus réellement libres. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Toutes choses sont passées et Dieu renouvelle toutes choses. Il renouvelle son amour pour nous en tout temps au travers Jésus-Christ. L'accusateur ne peut rien contre nous. Chaque fois qu'il voit cette cuirasse de la justice que Dieu a placée en nous, sur nous, il ne peut rien. Toutes ces flèches n'ont aucun effet. Elles n'ont aucun effet sur nous. En général, les méthodes que le diable utilise le plus souvent, parce que il utilise toujours la même façon, les mêmes manières, depuis que le monde est monde et depuis Adam et Ève, c'est parfois la condamnation, la supercherie, la tromperie, le mensonge, le doute. On peut se souvenir de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le diable dira, Dieu a-t-il réellement dit ? Là, nous pique avec le doute. Et dans les versets suivants, vous ne mourrez point. Et dans les versets suivants, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Supercherie, tromperie, doute, condamnation. Il essaie par tous les moyens d'ébranler nos convictions, en essayant d'atteindre notre cœur. Il veut nous faire douter, non seulement de nous-mêmes, mais aussi de l'amour que Dieu a pour nous. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, à partir du je vais lire le verset 1 et le verset 33 et 34. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Eh oui, nous on prie, mais le Seigneur aussi il prie. Merci Seigneur d'intercéder pour nous auprès du Père. On en a beaucoup besoin, on en a très besoin d'intercéder non seulement pour nous, mais aussi d'intercéder pour nos familles, pour nos amis, pour nos proches, pour nos collègues, toutes ces personnes qu'on connaît, pour qui on a beaucoup d'affection et qu'on voudrait tellement et qu'on désire tellement qu'ils le connaissent. Christ a porté nos péchés, il a payé pour nous, il a payé pour nos impiétés et il nous déclare juste. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. La justice de Dieu est notre cuirasse. Le malin ne peut pas la transpercer. Nous pouvons, par nous-mêmes, on en a parlé tout à l'heure, avoir des doutes dans notre cœur. Et parfois, on n'a pas besoin d'avoir le diable pour nous mettre des doutes. On sait se flageller nous-mêmes, hein, pas les forêts. Mais la justice de Jésus-Christ dépasse notre entendement. Elle va au-delà. Cette justice ne dépend pas de nous, heureusement. Je ne sais pas ce qu'on en ferait, ni comment on la traiterait. Mais cette justice ne dépend pas de nous, elle ne repose pas sur nos mérites, car c'est par la foi que nous l'obtenons en Jésus-Christ. Vous savez, si on se rappelle bien, le roi David, quand il s'est présenté devant Goliath, il n'avait pas d'armure. Il avait quelque chose de spirituel qui était beaucoup plus puissant, beaucoup plus costaud qu'une armure matérielle. La justice de Dieu nous a libérés de toute condamnation. La cuirasse de la justice nous permet de triompher. Je ne pourrais pas triompher. C'est cette justice de Dieu qui me permet de triompher. Cette justice qui nous a été donnée et dont nous avons été revêtus. Dieu nous a revêtus de cette justice. Nous avons obtenu cette justice lorsque Jésus a donné sa vie pour nous. Quoi de plus merveilleux? Rien ne peut nous voler notre identité d'enfant de Dieu. Un jour, quand j'étais au début de ma foi, je découvrais la Bible, l'Évangile, et j'étais à une réunion d'évangélisation. Et j'ai été touché d'une manière extraordinaire par l'Esprit de Dieu qui m'a montré que j'étais enfant de Dieu. Et là, j'ai pleuré toutes mes larmes. C'était extraordinaire de réaliser que Dieu devenait mon Père et que je devenais son enfant, et je me suis senti protégé, en sécurité. Je savais que là, plus rien ne pouvait m'arriver. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Comme disait quelqu'un, moi et Dieu, nous sommes la majorité. Dieu l'a voulu ainsi, et son amour et sa miséricorde ont été déversés sur nous, en nous, dans nos cœurs. Mettons en avant la justice de Dieu quand le diable veut nous rappeler certaines choses. Mettons en avant la justice de Dieu comme une cuirasse. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est mort pour nous, afin de nous faciliter le chemin de la communion avec le Père. Dans Ésaïe, au chapitre 64 et au verset 6, il nous rappelle ce que nous étions. Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. On était comme ça. Et dans Zacharie, au chapitre 3, nous avons l'histoire de Josué. Une image extraordinaire de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Zacharie, au chapitre 3, du verset 1 au verset 4, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Jusque-là, Satan pouvait se tenir à sa droite pour l'accuser. Puis, l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Nous sommes tous un tison arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis, il dit à Josué, « Vois, regarde ce que je fais. Ouvre tes yeux. Je t'enlève ton iniquité. » Je fais une parenthèse là, parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Un soir, j'étais dans ma chambre et je priais Dieu après avoir découvert toutes ces choses de Jésus, le pardon, l'amour de Dieu. Je dis, Seigneur, t'as vu comment je suis ça dans ma chambre? Mais ce n'était pas la réalité, ça. Ça, ce n'est pas la réalité. C'est le moment où le Seigneur vous montre votre péché. Vous montre, mais votre cerveau ne peut pas... C'est trop... C'est moche. Et puis après, c'est quand il vous l'enlève et qu'il vous donne sa paix et qu'il vous donne sa joie, son pardon. Vois regarde ce que je fais. Je t'enlève ton iniquité. Le Seigneur veut qu'on le voie. Et je te revêt d'un habit de fête. Alors moi, tout de suite, ça me fait penser à quelque chose. Puisque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre cœur, n'oublions pas que nous avons aussi, en même temps, reçu une invitation aux noces de l'agneau. Et il nous faut un bel habit pour nous présenter. Sinon, nous serons refoulés. Ainsi, le diable n'a plus d'emprise sur nous. Il n'a plus d'argument pour nous manipuler, pour nous condamner devant Dieu. Car l'assurance que nous possédons ne repose pas, comme je le disais, ne repose pas sur notre propre justice, mais sur la justice de Christ. Prenons soin de notre cœur. Prenons soin de le protéger en nous enveloppant de la justice de Dieu. Cette justice que Dieu nous a offerte gratuitement. Cette cuirasse est à notre disposition. À nous de nous en revêtir. Dieu veut que sa justice soit une partie intégrante de notre vie et fait partie de toute l'armure. Car il est un Dieu de justice, assis sur un trône de justice, et nous sommes appelés à marcher dans sa justice. Lorsque je cherche auprès de Dieu de la compassion pour mon prochain, lorsque je fais cette démarche et je prie le Seigneur d'avoir de la compassion pour telle ou telle personne, je recherche la justice de Dieu. Comme il m'a fait justice, je recherche la justice de l'autre. Parce que je désire dans mon cœur marcher dans la justice de Dieu. Toutes ces choses qui nous arrivent au quotidien et que nous désirons pratiquer avec espérance, foi et amour, veut démontrer que nous sommes revêtus de cette justice qui viendra. La cuirasse de la justice est faite aussi pour, et surtout pour nous aider à résister dans les jours mauvais. Cette lettre était écrite à l'église d'Éphèse. Et s'il dit ceci, c'est qu'il vivait aussi des temps mauvais. Et nous pouvons aussi en vivre. Et nous avons besoin de cette cuirasse. Elle nous aide à tenir debout. Si contrairement, nous ne choisissons pas de nous revêtir de la justice de Dieu, si nous décidons de marcher par nos propres pensées, avec, en mettant en avant nos propres idées, ou si nous choisissons par nous-mêmes ce qui nous semble pour nous le plus juste à nos propres yeux, alors nous ne connaîtrons jamais l'efficacité, la protection de la justice de Dieu. qui nous a offert. Ou alors, en tant que chrétiens, si nous décidons de faire les choses par nous-mêmes, nous risquons de nous égarer, de nous éloigner de la justice de Dieu et de sa protection. Mais au contraire, si nous sommes humbles pour reconnaître et pratiquer ce qui est juste aux yeux de Dieu, nous ne serons jamais démunis ou désemparés face à l'ennemi, face à l'adversité. La justice sera pour nous, et elle est pour nous, une cuirasse qui nous protégera et qui nous gardera, qui garde nos cœurs, plus que toute autre chose. Comme dit ce passage de l'Écriture, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Aimons, aimons la justice de Dieu. Pour certains, en particulier dans le monde, la justice, c'est d'avoir une bonne conscience. Mais une bonne conscience devant les hommes. Difficile d'avoir une bonne conscience de soi-même devant Dieu. Beaucoup pensent que c'est ça, avoir une bonne conscience devant les hommes. Tout va bien. Quelqu'un a dit un jour, ce n'est pas compliqué de faire de la politique. Il suffit d'avoir une bonne conscience, mais aussi d'avoir une mauvaise mémoire. La justice dont il est question dans l'Épître aux Éphésiens, c'est de revêtir l'homme nouveau. La foi en Jésus-Christ nous conduit à une vie transformée, réorientée. Même si elle n'est pas parfaite, elle doit être entière. Et cela fait la différence chrétienne dans le monde. Les accusateurs, en général, dans le monde, sont Satan, le monde et notre conscience. Pierre, 1 Pierre, au chapitre 3, au verset 13 à 17, nous dit ceci. Et qui vous maltraitera? Qui vous maltraitera? Vous maltraitera? Si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Jésus-Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent ou disent du mal de votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il nous est demandé de garder notre conscience pure en relation avec Jésus. Car là où Christ est le chef, les puissances sont soumises et vaincues. C'est la protection par excellence. Donc pour finir et pour conclure, je nous exhorte à marcher avec la justice de Dieu. cette justice que Dieu nous a offerte. Et d'agir par la justice de Dieu. En être revêtu comme d'une cuirasse qui nous permet d'aller jusqu'au bout de notre destinée. Et comme le dit si bien le titre d'un livre, notre destin, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse à chacun, et que cette parole puisse travailler dans nos cœurs, et que le Saint-Esprit la repasse et la ressasse dans nos cœurs, et qu'il nous aide, le Seigneur, à mieux en comprendre le sens, et qu'il nous en révèle davantage le sens et le bonheur que nous avons d'être justifiés. À lui soit la gloire. Amen.